Movies On de Mathieu Laberge.
Ouais, c'est le premier thème musical qu'on avait, poétiquement haute, les comptes à rendre. C'est le magnifique Yvon Jean qui est à côté de moi, mon brother.
Vraiment bon.
Oui, ben bon matin, il y a beaucoup de monde en studio. On est 6, peut-être 12 avec les... parce qu'il y a des, il y en a qui ont des personnalités.
Mais si ma belle-sœur était là, on serait probablement 15, mais ça c'est une autre histoire.
Donc on a, ben bon matin tout le monde, Yvon D'Anjou dans le coin
bon
droit.
Bon matin.
Pesant je sais plus combien de kilos. Hakim Kermich.
Bon matin Yvon.
Robert Hamel avec sa chronique.
Bonjour,
de parole et de lumière, qui reçoit Jean-Yves Métellus, brodeur Métellus ce matin. Bon matin, Jean-Yves.
Ah, mais il n'est pas encore jour.
Oui, ben on est jeudi matin, le 22. Et bon, bonjour, Monsieur Maestro Marc. Donc, on a un bon deux heures avec vous ici à Radio Centre-Ville, au compte à rendre, au 102,3 FM. En deuxième heure, on a JP Mortier.
JP Mortier qui vient nous parler des affaires. Puis on a apparemment un petit
anecdote, surprise,
et
tourne live de JP qui sera en spectacle d'ailleurs le 31 janvier au National. Allez voir ça, la page événement sur Facebook.
Yvon D'Anjou qui avait une petite idée, une petite intervention assez extraordinaire, je pense, hein?
Sur le japonais, son séjour au Japon, c'était vraiment cool.
Oui, il y a ça, puis Yvon D'Anjou va réciter une chanson comme un poème. Donc, manquez pas ça en deuxième heure. Et aussi en deuxième heure, on a les chroniques du Conseil avec Alain Clavet de La Métropole, journal La Métropole. Et c'est un journal web, si je me trompe pas.
Et Chantal Lheureux.
Et Chantal Lheureux, Jennifer Barker est en absence cette semaine de maladie. Donc, et il y aura aussi des surprises. Il y en a toujours des surprises avec vous. D'ailleurs, M. Lheureux va nous amener, pas M. Lheureux, M. Clavet lui-même, Alain, va nous donner de la musique de son cru, certain Matt Laurent, un nouveau chanteur québécois.
Et on va le revoir aussi un peu plus dans les mois qui vont suivre, je pense, M. Clavet. Hein?
Oui, entre autres, oui, on risque de l'avoir comme chroniqueur. Déjà, c'est une fois par mois, mais on risque de l'avoir plus souvent.
Très bon journaliste.
Très bon journaliste, très bien préparé. Et on a évidemment l'invité d'aujourd'hui. Et les extras. Hein. Les extras, ça, c'est pas comme la commission Charbonneau. C'est pas la même chose. Ici, les extras, c'est expérimental. On dit extra parce que ça n'a pas diffusé nécessairement au 102,3, mais c'est enregistré ici. Et ça tourne beaucoup. C'est Poésie expérimentale 35 qu'on enregistre plus tard en journée. Et on aura aussi Poésie des profondeurs, je crois bien, ce soir. Et un entretien avec Lucien Francoeur qu'on va peut-être diffuser la semaine prochaine. On ne sait pas. On va voir. Mm-hmm. À tout le moins, ça va être disponible en vidéo. On a reçu Eric Carson la semaine passée. Ce fut une magnifique entrevue qui a beaucoup tourné. Je pense qu'on bénéficie de la popularité de M. Arson.
Mais oui, c'est incroyable, ça a tourné.
Et je tiens à mentionner aussi l'émission de Robert Hamel, de Le Murmure du son, qui est diffusée dans la nuit de tôt le dimanche matin. Oui. Et tu as reçu des beaux compliments de la direction ici même. Oui, à qui?
En mentionnant que ça a beaucoup tourné, c'est plus de 1400 visites. Vraiment,
ah oui, bravo, ouais, c'est beaucoup. Là,
vraiment, bravo,
on avait franchi le cap des 1500.
Ah oui, ça a monté. Ouais. Et Hakim aussi a son émission ici, La couleur des mots, qui est filmée aussi, disponible en vidéo.
Oui, et j'invite cette semaine Zara Ansari et Emmanuel Yakomsky, les deux.
Ah oui, ah, c'est bien ça, qui était d'ailleurs un événement où j'étais plus tôt cette semaine, ce lundi, Galerie Simon Bolivar, le Centre Simon Bolivar, où il y avait une exposition. Il y a des photos qui sont sorties de ça. D'ailleurs, Magnolia a fait de la poésie. Vous irez voir la vidéo, Magnolia Komski. Vous tapez ça dans YouTube ou Dailymotion, Magnolia Komski, Centre Simon Bolivar. Vous allez tomber dessus. Il y a plein de choses à dire. On va en parler un peu. Le 2 février, c'est la soirée Chapeau Noir. Solovox, le 28, le dernier mercredi du mois, en l'honneur de Medji Vizina. Robert Hamel à l'accueil. Il est partout. Hein. Il est rendu comme moi. Il se dédouble lui-même. Et on aura aussi ma soirée comme artiste invité, Christian Duchamp-Gauthier. Mon recueil et lui, s'il lance le sien. Lui, il va le lancer pour de vrai, apparemment, dans la foule.
Ouais, ce qu'il dit.
Et le 9 février, le lancement du collectif 124 poètes en font partie au Bistrot de Paris. C'est toute une patente. Il est en... la pagination va commencer dans 2-3 jours. Je vais recevoir ma première copie papier de lulu.com la semaine prochaine. Et après, c'est l'imprimeur. Ça va être prêt à temps pour
Yvon,
le 9.
Dis-moi, est-ce que c'est parce qu'il risque d'avoir beaucoup de monde? Parce que chaque personne qui est imprimée amène, évidemment, ceux qui sont au Québec, amène 5 personnes. Il va falloir qu'on loue un bistrot de Paris.
Disons qu'on ne le dira pas trop fort parce qu'il rentre 125 personnes au bistrot, mais je pense qu'on va dépasser ça. Donc, mais ça, on ne le dira pas trop fort, mais le propriétaire va être content. Donc, manquez pas ça. Et aussi, il y a une soirée, je le souligne, parce que je suis à l'affiche, c'est le 4, mercredi le 4, une soirée pour ramasser des sous pour le Grand Slack David Leduc. Et je suis à l'affiche au bistrot de Paris. Venez en grand nombre. Il s'est fait voler chez lui son laptop et toutes ses œuvres, en plus d'argent, mais ça, il s'en fout un peu. Mais c'est ses œuvres qui le traumatisent, puis là, il n'y a plus d'ordi en plus. Donc, c'est pas évident. Quand on manque de perdre nos œuvres, comme M. D'Anjou, il y a quelques jours.
Mais oui, l'autre jour,
anecdote,
à moins 20, je transporte mon laptop à 35 km de chez moi. Mm-hmm. Le temps de le mettre dans la valise, arrivé chez moi, il est complètement gelé.
Oui, puis en l'ouvrant, tout a pété.
Puis tout a pété. J'ai un ami, un technicien qui m'a sauvé la vie. Et mes derniers textes, je travaillais sur un dernier recueil qui s'appelle « Le ventre de la machine ». Et j'avais perdu les 38 derniers poèmes que j'avais. Et ça m'arrachait le cœur. Mais lui, il a tout sauvé. J'ai plusieurs poèmes. Il a tout sauvé. Et puis j'ai eu mon ordi aujourd'hui. Mais il en a fait deux avec une.
Oui, mais de l'ordi qu'on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent. Oui.
Donc, thank
ben,
you,
on
Jesus.
Remercie cet homme. On va y amener de l'ouvrage.
Gaétan Boutillier, ouais, oui. Justement, il y a Entre ciel et terre, c'est sa business.
Ah, OK.
Mais cette anecdote, Yvan, ça me rappelle l'anecdote de Lucas Markov, mm-hmm. lui qui a perdu, je pense, une cinquantaine de poèmes, mais écrits sur du papier.
Ouais, ouais.
Il a dit, j'ai pleuré. Et puis, il y a son ami, il n'a pas compris.
Ah, il avait écrit ça sur les mouchoirs, c'est pour ça.
Il lui a dit, toi, tu comprends pas, mais ouais, ça me fait beaucoup de peine que je perde mes poèmes à jamais.
Mais sur ça, on va écouter l'éditorial poétique de M. Danjou. Ah,
je peux faire juste une petite intervention
avant? Intervention, oui.
Sortez vos agendas.
Oui.
Et le troisième dimanche de février, 16h30, Bar Piranha, la place à être, hommage à Yvon Jean.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
Rien de moins.
Oui, j'ai appris ça. Ouais, c'est un peu mal à l'aise avec ça, mais je vois être
ben
là.
Non.
Oui, un hommage à Yvon
Pour
Jean.
Une fois qu'on rend hommage à Yvon.
Oui, on a appris ça dimanche.
Mais ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas endommagés.
Ils vont être endommagés.
Hommage à l'hommage.
Leurs oreilles, en tout cas. Donc, on y va écouter l'éditorial poétique de M. Danjou qui s'intitule « Vrac Diesel Kundalini ».
Wow.
C'est original quand même. On écoute ça à l'instant sur Radio Centre-Ville.
What the fuck is that? En écrivant à Ginsberg, William Burroughs a dit « Allen, je suis un Christ de bon saint. Je me suis fait fourrer par le Saint-Esprit. Knocké dans le vide immaculé. Allen, je suis le dernier avènement. Surveille-moi, j'arrive comme une révélation. » La folie, c'est de ne pas avoir de vision. Il n'y a pas de frontière entre la réalité, la mythologie, les objets, les sensations, les symboles nous frappent avec l'impact d'une hallucination. William Burroughs. Grégory Corso enchaîne en disant « If you believe you're a poet, then you're fucking saved. » Si tu te crois, poète, tu es sauvé en tabarnak. La sagesse est une connaissance que l'on atteint sans passer nécessairement par la foi. Le grand rêve américain est un monstre hideux qui a mangé le Christ pour le régurgiter dans des biscuits Oreo et du Dr. Pepper. The American Way. L'esprit s'écoule au travers de mes blessures comme une piscine. Je me suis levé debout au-dessus de la carcasse de mes tourments pour crier mon sentiment de liberté sur les rebords de mon éternité. Grégory Corso. Vrac. Gin, diesel, pantomime, kundalini. Tu m'animes de ton rendez-vous de fond de page, le garage, le soir au fond de ma gorge. Quidam formate ma dissonance. Je conteste la fausse lumière du Louvre. Dans mon identité perturbée de trans friturée, l'hallucination est une science pure et exacte. Eux, ils ont des abris, mais de faux habits. Décorum, décorum, lumière de réussite. Do you glow in the dark? Bombe de l'hélium, je suis un mongol fier sur l'extase de mon baptistère créatif.
je corbeau, sulfure de goupille. Tu es une créature grenade intéressante, charogne luisante, hédoniste de nightlife. Ivrogne festif de nectar, carcinum, cellophane, copyright. Vampirise l'ambroisie à la table des jeux d'émeraude. Tu tords ton entité métaphysique dans la valse des chimies modernes. Funambule de torpeur et diagnostic flou. La poésie est une respiration artificielle dans un monde qui étouffe sous un drap de lune en forme de polytène éventré. Dans l'entreprise industrielle de la prose éditée d'idées reçues, tu t'es fait des idées de neurones déshydratés. Tu dérapes avec la scansion de tes idées de ratés. Tu fabriques des bombes de psychotiques. Tu les distribues dans les machines automatiques. Psychopathe de laundromat, tu prévariques des songes robotiques afin de vulgariser ton quotidien de couleurs solfège et d'aventures couleuvre. L'infini est un hôtel soudé aux quatrains absolus de mes motels désaffectés. L'opinion admise est démiurgique, mais c'est quand même une langue de bois qu'il nous faut brûler. Mesure orgiaque, gin diesel en vrac et fructose allergène. Dionysos shake la baraque comme un latté atomique allongé in express via plasma. Réalité de confit monstre. Chaos d'ivresse tombé, décate, tombe, fracture. Mon cher ami, Dali l'a dit, je ne fais pas de drogue, je suis la drogue. I don't do drug, I am drug. In drug we rust, in the land of the freaks, and the home of the grave. One fucking nation undergone.
Poésie maintenant. Hakim Kermesh.
Le passé du futur. Le passé de mon passé. Se souvient-il de ce qui s'est passé, de ce qui a été réparé et non de ce qui a été cassé? Et le passé de mon futur, se souvient-il des êtres purs, des couleurs uniques et sobres et non celles dégradées et sombres? Et le passé des trous de mémoire, continue-t-il à croire en les êtres qui ont beaucoup de vouloir, même si ce vouloir est dans l'action qu'ils sont prédisposés à prendre avec aisance, eux, moins fortunés côté finance? Et la mémoire de l'histoire va-t-elle se souvenir des perdants, des âmes belles et ceux des êtres bons, perdants vis-à-vis d'un passé gris, des gens insoumis? Car cette couleur n'est pas la leur, n'est plus la leur, eux qui acceptent maintenant les couleurs qui vivent la bonne humeur. Musique pacifiste ou pacifique, la musique pacifique, nostalgique, qui vient d'Asie, d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique. La musique théorique ou pratique, biblique ou coranique, celle jouée par les Incas ou chantée par Osiris, accompagnée de danses pharaoniques et qui confond prose et poésie, comme si deux faux jumeaux étaient des sosies. Mon courage, oui, mon courage à rester un humble serviteur des rimes et de ma poésie.
En poésie maintenant, Robert Hamer.
Femme noire, femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimé. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire, à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Léopold Sédar Senghor, poète et homme d'État sénégalais.
En poésie maintenant, Marc Lavoie, sur Radio Centre-Ville.
D'ange. L'empire de tes inquiétudes, d'or, une vie te guette. Un sanglot. Pire, le voir, le soupir, mais prendre tes mains qui viennent chercher l'histoire. L'histoire d'un chemin qui nous mène vers les yeux, regarde l'horizon. Voir, espoir, nostalgie. Une vie, une chanson, une improvisation.
De paroles et de lumière, sur Radio Centre-Ville avec Robert Hamel et son invité. Jean-Yves Métellus.
Interlune. Interlune désigne un espace onirique entre l'enracinement et l'exil, un univers fait d'astres nouveaux, d'éclipses et de mystères. Les textes de ce corpus naissent d'une exploration des haïkus, petits poèmes d'origine japonaise, bondé de mystères, mais révélant tout autant la force de l'instant. Tous les poèmes ici reprennent la forme du tercet, sans respecter le nombre de pieds, mais évoquent autant que possible certains aspects appropriés au genre. Chaque texte, tout en se liant à l'ensemble, tente le pari de l'autonomie. Enfin, entre deux hémisphères, deux pôles du réel, ici et ailleurs, cet espace constitue un refuge pour la sublimation de l'être face aux assauts du néant et des morsures de l'incréé.
C'est beau, ça?
dans les replis de l'eau. La lune au ciel levant danse telle une femme nue. D'un rideau transparent, une pluie cache à peine les seins de la nuit. Quand naît le petit jour, tous les arbres, en silence, portent le sanglot des adieux. Jean-Yves Métellus, bonjour.
Bonjour, Robert.
Ce que je viens de lire, c'est tiré de Interlune, le tout dernier recueil de Jean-Yves, qui a paru en novembre 2014 aux éditions des Vagues en Haïti et qui nous est parvenu maintenant. Jean-Yves, la genèse d'Interlune, comment t'es venu l'idée d'Interlune?
Bon, et comme c'est écrit dans au dos du livre, j'écrivais j'explorais au fait les haïkus japonais. J'en lisais beaucoup et j'en écrivais aussi. Et puis, j'avais invité des amis à faire une espèce d'anthologie d'haïkus, d'autres amis qui en écrivaient aussi. Et puis ça m'a amené à Interlune, ce ne sont pas nécessairement des haïkus, mais ce sont des textes qui sont inspirés des haïkus japonais.
Ouais.
Et j'en écrivais comme ça et je les assemblais. Et puis ça a donné comme ça, spontanément, sans que je le sache, un recueil de poésie. Mais si vous voulez savoir davantage la genèse, au fait, c'est... L'interlune, c'est un lieu d'absence. D'absence dans le sens que je suis en rupture, comme aime dire Aimé Césaire, en rupture de faune, c'est-à-dire je suis plus avec les miens, ma famille, mes amis, les habitants de mon pays, etc. Je me retrouve ailleurs, dans un autre espace. Et il y a cette absence-là. Il y a ce vide-là qui appelle à être, finalement. Parce que c'est dans le vide, finalement, que la naissance existe. Donc, ce vide-là offre une possibilité de naître à nouveau. Naître dans un espace différent. Donc, il y a comme une traversée. Une traversée, je dirais... nocturne, et c'est pour ça que j'ai appelé le texte Interlune, où il y a des éclaircies, il y a des ombres, il y a des quarts de lune, il y a des éclipses, tout se passe finalement dans cet espace-là, dans cet espace de non-existence, mais qui appelle à une renaissance.
Ok. J'ai le recueil depuis peu de temps, à peine 48 heures, j'ai eu le temps de le lire deux fois et demi, si vous voulez. J'aurais aimé le lire pendant une semaine parce que je pense que j'avais commencé à saisir le concept. Mais ce que je remarque, moi, je qualifierais cette écriture-là d'écriture nucléaire ou cellulaire, si vous voulez, dans le sens que chacun des petits haïkus est autonome en lui-même, mais sur la même page, il est lié aux haïkus qui le suivent et le précèdent. Et finalement, on a une espèce de fleuve et on a un tout cohérent. C'est ce que j'ai cru percevoir et comme d'habitude, l'écriture de Jean-Yves est tout à fait élégante, éthérée, mystérieuse, énigmatique. Mais il y a une recherche peut-être un peu plus de simplicité ou d'économie dans ce recueil-là, peut-être qu'on ne trouve pas dans d'autres textes. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, comme j'ai dit, c'est le recueil de l'absence, au fait. Donc, dans cette absence-là, j'essaie de me purifier en quelque sorte, me préparer à cette naissance. Donc, je me dépouille de pas mal de choses, de cette pesanteur qui m'habitait quand j'étais dans mon pays, de tout un ensemble de questionnements, de choses inhérentes à ma nature initiale. En fait, ma nature initiale, quand je dis ma nature initiale, ça peut paraître bizarre, mais je veux dire, dans cet espace où j'ai pris naissance, dans cet espace qui m'a vu naître. Donc, il fallait que je me dépouille de pas mal de choses pour arriver justement à une certaine pureté, je dirais, dans l'écriture. Donc, dépouiller l'écriture de superflu, de rester juste à l'essentiel. Bien entendu, ça peut rendre le texte hermétique et incompréhensible, mais c'est un choix esthétique finalement.
C'est une mort finalement qui s'est faite.
C'est une mort.
Je pense que tout exil est un deuil.
Oui, un deuil finalement. Mais tu en sors comme tu parles de renaissance, c'est une réincarnation.
Oui, c'est une réincarnation. Mais je pense que, et d'une manière générale, l'être humain est toujours en exil. Oui. Il est habité par plusieurs êtres. Il y a un peuple qui vit en chacun de nous. Et à certains moments, il y a des êtres dans cette confusion-là qui essaient d'émerger, qui veulent s'exprimer, qui veulent s'affirmer. Et c'est au détriment des autres. Ouais. Donc, pour qu'il y ait naissance, il faut nécessairement qu'il y ait mort. Mm-hmm. Donc, oui, c'est une réincarnation parce que j'apprends à être. Au fait, mon identité maintenant que je suis en rupture par rapport à mon pays, c'est qu'est-ce qu'elle est? Tu comprends? Oui. C'est ça le questionnement. Oui. Comment m'identifier par rapport à une culture étrangère en rompant avec la mienne, en fait? Oui. Mais pas définitivement, pas totalement, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui m'habitent, qui continueront à m'habiter où que j'aille. Oui.
Mais tu parles juste, excuse-moi Robert, tu parles, Jean-Yves, de l'exil et ta façon de voir l'exil. Ça m'interpelle, cette chose ou cet exil, parce que moi je suis au fait aussi un exilé, comme beaucoup le savent. Et puis, moi des fois, je suis ici depuis plus de 15 ans. Des fois, je dis à mes amis, qu'est-ce que tu penses de cela? Je leur dis, moi, mon pays natal, c'est l'Algérie. Et à peu près, la distance entre le Québec et l'Algérie, c'est 7000 km. Je leur dis, la distance qui me sépare de l'Algérie, de ma famille et de mes amis, ce n'est pas 7000 km, c'est au fait 15 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bon, écoutez, c'est... Je pense que pendant ces 15 années, vous avez probablement appris pas mal de choses et vous avez dû divorcer de pas mal d'autres choses. Oui, c'est certain, ces 15 ans-là vous séparent de votre terre natale, de votre réalité dans une certaine mesure, parce que le pays qu'on a, le pays mémoriel, ce n'est pas le pays réel. Mmh. Et il y a un grand débat d'ailleurs qui s'est fait ou qui continue à se faire, et c'est le retour au pays natal. C'est le rêve de tout exilé finalement, de retourner à la source, de retourner au pays natal. Mais le pays mémoriel n'est plus le pays qu'on a connu.
Exactement.
Et le pays qu'on va retrouver n'est plus le pays mémoriel non plus.
Exactement, c'est comme tu le mentionnes, il y a deux côtés. Il y a le côté où moi je suis resté ici 15 ans. Et je te dis l'expérience j'ai été enrichi. Moi, l'enrichissement, je le multiplie par deux. C'est 2 fois 15 ans, c'est 30 ans, je te dis honnêtement. Et comme tu dis, des fois, je rentre dans mon pays d'origine pour rendre visite à ma mère, des choses comme ça. Je vois
un
décalage de 15 ans.
Ouais.
Les gens, et puis des fois, le comportement, je ne comprends pas le comportement des gens. Tu le mentionnes bien, il y a deux côtés de cela, c'est vrai.
Si vous permettez de l'exil physique, j'aimerais peut-être passer à l'exil en soi-même du poète.
Ouais.
L'exil en soi. Et je vous lis un extrait et là, je vous présente une question qui va suivre. Ça va être un peu le déroulement de l'entrevue, comme okay. Ça.
Je pensais que l'entrevue était déjà
débutée. Ah oui, elle a commencé. Elle est commencée, oui. Algue nocturne qui dévoilait ma nudité, toucher cette chair avide. La douleur est un trop grand destin qui vient nous happer. Bruits épars et débris m'habitent l'imaginaire. Je vis sans silence.
C'est beau ça.
Oui, c'est très beau.
C'est très bien.
Et ma question est la suivante. Est-ce le destin du poète que de souffrir, et la poésie serait-elle l'antidote à la douleur?
Aïe, aïe, aïe. Ça, écoutez, non, je ne pense pas que la poésie est nécessairement antidote à la douleur, parce que la poésie peut être aussi enchanteresse, elle peut être contemplative, elle peut être heureuse, et parce que quand on est face à des choses extraordinaires dans la nature, on peut être en extase devant certaines choses, et cette poésie-là, elle n'est pas douloureuse, c'est une poésie jouissive. Donc je ne dirais pas que la poésie serait l'antidote à la douleur, non, je ne le dirais pas, mais oui, dans une certaine mesure aussi, ça dépend du poète, ça dépend de la démarche langagière de chacun. Moi personnellement, j'ai toujours considéré la poésie comme une façon d'être, dans le sens que je suis un être assez timide, assez discret, je suis très taciturne des fois, je peux être volubile mais pas toujours, ça dépend quand je bois quelques verres, oui, donc je pense que c'est une façon de m'affirmer, parce que je ne le fais pas assez dans la réalité. Je suis toujours en désaccord par rapport au réel. Je suis toujours en marge. J'aime la marginalité. J'aime la solitude. Donc, ça me permet d'être. Ça me permet d'affirmer des choses profondes que je n'aurais pas dites, je ne sais pas moi, dans la vie sociale. Je pense qu'il y a un individu social qui est habité par un poète qui est plus grand que lui. L'individu social n'est que le résidu de ce poète, parce que le poète, okay, il transcende, il est extraordinaire. Et ça me fait penser à des gens qui, quand ils me voient, et puis qui, en fait, ils me voient en poète, et puis qui pensent, ouais, que je suis, je ne sais pas moi, le pic de la Mirandole. Pourtant, je suis un être banal, un être ordinaire et qui chie, qui pète. Tu vois, qui...
Ce n'est jamais banal de chier pour un poète.
Non.
Non, mais je veux dire...
C'est poétique.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le poète ne m'habite pas toujours. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a des moments où cette étincelle... où il y a cette explosion, ce désir d'expression, cette force, cette énergie qui...
Sublimation.
Qui nous enveloppe et puis qui fait qu'on se sent poète.
Mais ce que j'aime de ta démarche, c'est que tu sutures, je ne veux pas faire un abus de langage, mais tu sutures la déchirure par l'écriture.
C'est une belle façon de dire, oui, parce ouais. que justement... Mais vous savez, je suis entré dans la poésie par l'élégance, par la beauté. C'est ce qui m'a fasciné. Donc, l'écriture poétique, pour moi, il y a des mots que je ne pourrais pas utiliser parce que leur musicalité, leur lourdeur ne me permettrait pas de les insérer dans un texte poétique, parce que je suis un esthète, je peaufine mes textes. Donc, il y a un choix de mots, il y a un choix de langage qui fait que, oui, c'est vrai, ça me permet de voir de la beauté, ça me permet d'exulter, si vous voulez, tout le mal, tout le déchirement qui m'habite en tant que être.
Tu as une vision sensible de la vie.
C'est ça. C'est vrai, c'est pour ça que je ne peux pas... La démarche intellectuelle, en fait, je raisonne, j'aime la rationalité, j'aime la démarche dialectique.
Oui, oui, oui.
Je peux faire des recherches, mais il y a une méthodologie rigoureuse, scientifique, que je ne peux pas aborder parce qu'elle est trop rationnelle, elle est trop rigoureuse. Je préfère sentir. Il faut que je sente d'abord les choses.
Tu soulèves un bon point. Kerouac qui dit « Nous avons tous des visions, mais ce qui nous manque, c'est la méthode. »
Voilà. C'est une bonne façon de résumer.
Mais si je peux dire, je retourne un petit peu à l'exil. Une exception pour notre ami Robert Hamel. Parce que ça, le sentiment, je pense, pousse aussi à créer, à écrire de la poésie. Mais il y a une phrase que j'aime qui dit « On peut être exilé même dans son propre pays. »
Oui, mais je l'ai dit tantôt que l'exil, c'est pas seulement physique,
Et c'est ça qui peut être un déclencheur pour éventuellement donc créer, faire de la création.
Mais je pense que d'une façon générale, les artistes, les poètes sont des gens qui sont en dichotomie par rapport au réel. C'est des gens qui n'arrivent pas à se concilier avec des choses qui se produisent autour d'eux et qui, justement, qui utilisent cette voie et transcendantale, justement, pour ne pas s'engouffrer dans la merde. Et, mon Dieu, c'est ça, hein, la poésie, c'est ça, ça nous élève, ça nourrit notre âme, ça nous permet de ne pas être des brebis.
D'ailleurs, si je peux.
Des moutons de Panurge. Hein?
C'est ça, si je peux continuer ici, je pense que c'est très bien dit. Vers quel néant irions-nous si la poésie cédait à l'effigie du monde? Sans la poésie, serions-nous condamnés au néant?
Wow.
Aïe, aïe, aïe. C'est... J'ai dit ça?
Oui.
J'ai dit ça, moi.
Ouais. Ça,
la la question est de moi, là.
Ça mérite une médaille. Ou une guédaille.
Ah, ben, je dis souvent que... D'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus. Ma poésie a totalement changé en arrivant ici. Au départ, j'écrivais des textes fleuves avec une force, une énergie, une révolte que j'ai perdue. Parce que je m'assagis un peu.
Oh.
Oui, mais quand je dis je m'assagis un peu, dans le sens que si vous écoutez des textes comme c'est pas moi et des textes que j'écrivais avant comme qu'est-ce que je pourrais vous dire, hein? Toutes ces plaintes, ces entailles, ces éclipses et ces ombres dissipées sous le bas de ton corps. Toutes ces joies, ces bouderies, ces folies et ces croix postrées au carrefour de ta vie. J'ai fait des vœux de désertion, dansé comme un hybride autant des vaines promesses et des malentendus. Mais ton fou rire ne cesse de ponctuer mon poème. Et je fais l'antibrise en cité de carton et c'était pour ne pas te dire le cœur aveugle, la mort latente, la table rase. Vois-tu ma presqu'île? Je suis d'étranges victimes noyées dans le flot des souvenirs et des vieilles pensées en villégiature de poésie. Profitant du bal nocturne, je cache ma nudité à l'idéal humain, mes mots en éventail et la parole en reste. Trois fois par soif pourtant, ma langue arpente la lune à itinéraire non inventé et pullule mes sens, bouillonne ma gamelle au feu sacré de ma certitude, tel un sort acharné jeté à l'ombre ville, à s'éclore du mûrissement des frontières. Et c'était pour ne plus gémir à la marche funèbre. Trois fois j'étire la langue, plie cette fois sous le ventre miteux, ma queue de gêne semence et de brebis galeuse. Mais dis-moi mon corps, où sont tes réserves? Où sont tes grottes caches puanteurs, telles des nénuphars isolant les squelettes de nos frères en pourriture, outre canoë? Toi et moi mutilés, nos actes s'acheminent vers l'abîme du fini et salissent les bien-pensants. S'en va forcément tout ce que je suis. Et j'apprends d'une étincelle, aussi faible soit-elle que le cri du délire qu'on ne capture nulle ombre. Puis se déchaîne, s'incruste dans la mémoire toutes les nuits que l'on n'a point connues, nuit de noces, nuit de Pâques, nuit de Noël. Et l'indicible rumeur de la rivière qui ronge à chaque coulée d'urine nos blancs de résistance, et les histoires malpropres à se raconter à croûtes amères, et les béquilles des marginaux, nus d'espace et de tracés. Ah, si je puis d'un soupir dissiper tout cauchemar. Des images se tissent sur la face du réel. Les hommes s'empressent d'entasser leurs blessures dans la fêlure du temps. Moi, j'ai mis mon souffle pour ne plus pouvoir crier. Quelques mots vagabonds ciselés sur front de rêve au profil de sourire troublent l'acte de tes yeux. Tu resteras folle femme, bouche cratère, bras javelot. Ça, c'est ce que j'écrivais quand j'étais en Haïti.
Bravo, c'est aïe, bon. Aïe, hein?
Bravo.
Hein? Mais là, quand je dis je m'assagis, c'est différent. Je dis, je ne m'attache qu'aux odeurs. Au son, aux couleurs. Je gomme les dates, rature les lieux, oublie les formes et personnages de l'histoire. Ce que je retiens n'appartient à aucune matérialité et change au gré du temps, se perd, me nourrissant. J'ai en moi tant de sensations sans origine ni destination, pas un signe pourtant. De la cendre pour évoquer d'incinération, de débris pour signifier d'effondrement. Rien. Tout reste intact. J'arrive à m'approprier de la substance intelligible des êtres et des choses sans leur décomposition. J'ai tant de peine à compter les morts ou à pleurer sur des décombres. Des villes entières, des peuples que j'ai connus, aimés, visités, habitent ce innommable, que j'essaie de nommer. Ils sont vivants et morts. Plénitude du vide. Bruit du silence. Donc il y a un changement, hein? Avouez-le.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, et le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse. Revient, fille verte des fjords, revient, violon des violonades, dans le port, fanfare les corps, pour le retour des camarades. Oh, parfum rare des salants, dans le poivre feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquides joues de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu. Cette mémoire des étoiles, cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. La mer bergère m'appelle.
Les femmes, c'est... Ah. Je suis en onde là, hein?
Oui, là,
j'allais dire une bêtise.
En onde.
Drogue de feu.
Ben, re-bienvenue au Compte à rendre avec Robert Hamel qui reçoit Jean-Yves Métellus en ce 22 janvier 2015.
Je poursuis avec un autre extrait. D'une langueur autonome, des feuilles mortes s'éparpillent sur les lacs endormis. Accablé de nostalgie, j'ai omis d'aimer les chansons de Prévert. Des peupliers s'émiettent sous l'ampleur du réel, traversés par un souffle. Naît dans l'alcôve du doute le don du frisson, l'instant maculé de tendresse. L'amour côtoie-t-il toujours le doute?
Ah, écoute, je pense que pour aimer, il faut douter d'abord. Parce que c'est le doute qui va faire grandir cette force en nous. Rien n'est statique, rien n'est... Tout ce qui est fini est appelé à disparaître. Donc, pour laisser la flamme en vie, il faut qu'il y ait le souffle. Si tu enfermes... Tu peux faire l'expérience, c'est physique. Si tu allumes une flamme à l'intérieur, il n'y a pas d'air, la flamme va mourir. Donc, il faut...
Donc, le doute est un moteur.
Le doute, je pense qu'il est toujours présent. Je ne sais pas s'il est un moteur, mais... La nuit accompagne le jour, la mort accompagne la vie, le doute accompagne la certitude. Donc, c'est une dualité existentielle. C'est même une nécessité existentielle.
Mais si je peux poser la question qui suit, c'est... Tu parlais hors d'onde des perles qui sont enfouies dans l'océan. Et tu disais que ça faisait référence donc lors de l'esclavage et qu'il y avait des Noirs qui ont été... jetés donc par-dessus bord, etc. Et puis tu dis qu'avons-nous fait ou est-ce qu'on a mérité ça? Ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je suis... l'Algérie s'est connue historiquement. Elle a été donc colonisée un siècle et un quart de siècle, 130 ans. Moi, je suis né dans l'indépendance, en 64. Et puis... qu'est-ce qu'il y a? Je me dis toujours, moi je suis quelqu'un de replié peut-être, et puis un peu timide. Mais je me dis toujours, ok, moi d'ailleurs mes parents, nos parents, la génération de mes parents, ils disent, vous êtes né dans le paradis. Alors je te dis, non, honnêtement. Et puis moi, je me dis, mes parents, ils ont vécu la misère noire. Mais mes grands-parents, et la génération des grands-parents, il y a des gens... qui n'ont même pas été recensés. Il y a des gens qui ont vécu plus que la misère noire. Et ça, ton expression m'interpelle beaucoup. Tu as dit, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter? Et je te dis, un de mes textes, un de mes poèmes, je dis, les sans-abri, ok, les sans-abri, maintenant dans un pays occidental, il y a toujours des sous-populaires. Mais lors de, on va dire, c'est pas juste l'Algérie, comme tu dis, là, lors de l'occupation du Sénégal, etc. C'est pas, je reviens pas sur l'histoire, hein, moi j'ai tourné la page. Mais des gens comme ça qui ont été des sans-abri, on va dire de la génération de mes grands-parents, c'est la misère, de la grande misère, peut-être c'est la misère absolue. Donc c'est juste ça, tu as dit quelque chose, ça m'a interpellé, c'est juste, ouais. Je voulais dire ça, c'est tout.
Oui.
Oui, le temps file.
Mon Dieu, on a encore
en
rien dit.
En bonne compagnie. Ben, t'as un livre qui vient de sortir, tout chaud, ouais. Est-ce qu'on peut se le procurer quelque part?
Ben, au fait, je prépare la ventilature j'ai pas encore d'espace.
Mm-hmm. Ah, okay.
Donc, je pense que en temps et lieu, je, mm-hmm. j'annoncerai le lieu et la date de l'aventignature prochaine de Interlune. Tout frais, c'est mon quatrième recueil.
Bravo.
Donc, vous saurez la date et le lieu. Et j'essaie de négocier avec certaines places parce que j'aurais aimé faire une soirée de poésie, en fait, inviter des amis, des musiciens, etc. Ce ne sera pas juste une ventilature, donc j'essaie de planifier tout ça pour faire quelque chose d'extraordinaire.
Pas moyen spécial. De faire 2 heures. Moi, j'ai tout plein de questions encore.
Monsieur Metellus,
oui.
Je connais un excellent organisateur, okay, entre autres de soirées poétiques. Monsieur Yvon Jean?
Oui. Ben, on pourrait en parler, hein?
Oui,
n'est-ce pas, n'est-ce pas, Yvon?
Très bonne idée. Oui, le temps file. C'est vrai, Robert, que le temps file. Des fois, on ferait 2, 3, 4 heures avec un invité. C'est tellement des choses. Ça ouvre des portes, des avenues, des sujets, mm-hmm. des idées. Et donc, ben, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es extrêmement bien préparé. Bon, on réinvitera Jean-Yves.
Disons qu'aujourd'hui, j'avais mis un peu. Ouais, j'avais préparé quelque chose de spécial.
Ben, on réinvitera Jean-Yves pour une prochaine émission, justement, quand il fera son lancement officiel.
Je voulais dire quelque chose par rapport à l'intervention d'Hakim qui disait, en fait, moi, je pense que maintenant, le discours anticolonialiste est dépassé. Donc, je m'y abonde pas. Et je l'évite, d'ailleurs. Je pense que les gens comme Senghor, comme Césaire, ils ont fait leur temps. C'était le moment idéal, justement, pour la réhabilitation de la race noire, etc. Il y a encore du racisme dans le monde, ça on le nie pas. Hein. Mais je pense que ce discours-là, il est dépassé. Donc, moi, j'abonde pas dans ce sens-là. Mais il y a quand même des clins d'œil, il y a quand même des séquelles, il y a quand même des...
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, j'ai mentionné ça moi aussi. Bon, j'ai fait, comme on dit, la paix avec mon passé.
Comme j'ai dit, je suis sans silence, qu'il y a des débris qui m'habitent ma mémoire.
Ce que dit Jean-Yves, c'est que je sens que c'est un devoir de mémoire. C'est que moi, comme tu dis, l'occupation coloniale, l'histoire coloniale, c'est connu, la page est tournée. Mais c'est un devoir de mémoire pour moi. Moi, je me sens comme touché que mes grands-parents ont vécu la misère. C'est juste, je veux juste apporter ça comme... C'est quand même mes racines à moi. Et puis, ça me touche. Mais le truc, c'est, comme tu dis, c'est la page est tournée de trucs. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Moi, je retiens quelque chose de la discussion ce matin. On a parlé d'exil, on a parlé de se définir, on a parlé de transcendance, en quelque part, si on veut. Je retiens ce passage-ci. Mon cœur désavoué ne sème plus d'aversion dans l'alchimie du verbe. Et la question que je me pose est, est-ce que chaque poème, en fait, chaque poème témoigne-t-il d'une métamorphose?
Oui, dans une certaine mesure. En fait, c'est toujours difficile de remonter à la source du poème, hein, parce qu'on n'est pas toujours présent en écrivant le poème. Fort souvent, on est absent. Et quand on se relit, on essaie de donner des explications, on essaie de développer un discours, un langage autour du texte, mais c'est toujours après coup qu'on le fait. Donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas vous dire exactement à quoi je pensais, mais il y avait une période où justement je vivais quelque chose d'extraordinaire et puis ça s'est arrêté. Et j'ai l'impression qu'il y avait cette mort-là, justement. Et mon cœur a subi le coup. Et c'était un deuil, justement, à faire. Et ça a donné naissance au poème.
OK.
Mais
excuse-moi, Kim, un instant. Le recueil se termine de cette façon. Et je pense que c'est quelque chose. Incapable d'allégeance, j'étreins pourtant la certitude jamais aussi secrète. Voici venir des mages revêtu d'oripeaux dans l'enceinte lumineuse. L'apothéose est dans l'instant si beau où la chair à l'esprit se noue.
Wow!
J'ai écrit ça.
Mais si je peux dire une chose, Robert, concernant ton invité qui est aussi mon ami, Jean-Yves Metellus, je fréquentais l'année passée, je pense, au début de l'année, les soirées de poésie, entre autres Vivement Poésie. J'écrivais, mais je ne partageais pas. J'ai assisté une fois, c'était Jean-Yves Metellus, puis avec Gary Clan, il y avait Kamal Benkirane et d'autres. Je te dis honnêtement, tu apportes une atmosphère spéciale aux soirées lorsque tu partages ta poésie. Et l'un des points que je me souviens, tu disais au début, je vous annonce que le soleil a mis le cap sous d'autres cieux. Et les gens commençaient à rire. Et c'était le début d'un poème. Il a enchaîné vraiment cette explosion.
Ah ouais, ça c'est un texte d'un poète haïtien, c'est pas de moi, hein. Il faut le dire, d'un poète qui s'appelle René Philoctète. Et c'est un poète, un très grand poète haïtien.
Ben, quand Jean-Yves est dans une soirée, c'est toujours magique. D'ailleurs, ma copine de vie, Sonia Bergeron, adore Jean-Yves Metellus. C'est un de ses préférés. J'ose pas dire le préféré.
Non, faut pas faire des jaloux.
Faut pas faire des jaloux. Parce que...
ouais, alors, Robert, et j'ai pensé à la naissance de Jésus-Christ en écrivant ce dernier texte. Et j'ai pensé à ma renaissance. C'est comme s'il y avait justement cette nouvelle dimension qui s'offrait à moi. Mais tout est intériorisé. Hein. C'est ça, je vis ça en moi. Si on ne me connaît pas, on ne le saura pas qui a eu cette renaissance-là. Hein? C'est ouais. Parce que, au fait, je mène en même temps, je vous le dis, une quête spirituelle. Donc, j'explore des avenues spirituelles. Donc, ça m'apporte pas mal de choses aussi. Et oui, c'est vrai, l'apothéose est dans l'instant. Et finalement, qu'est-ce qu'on a à part l'instant? Le passé n'est plus, le présent n'est pas encore. Bon, même si l'instant ne dure que l'espace d'un sillement, mais on est dans l'instant. On est toujours dans l'instant. Chaque instant, on appelle un autre. Donc, il faut vivre, justement, comme aime dire un ami, il faut vivre l'instant présent. Et l'instant présent, justement, c'est cette enceinte, c'est ce temple de lumière qui s'ouvre.
Et je dirais à nos auditeurs, nos auditrices ce matin, si vous voulez vivre de très beaux instants, lisez Interlune de Jean-Yves Metellus.
C'est bien. Ben, on va se laisser avec une musique de Miles Davis que Jean-Yves adore, Around Midnight. Et tout à l'heure, on avait écouté la fameuse chanson de Léo Ferré, La mémoire et la mer, que je qualifie d'un chef-d'œuvre, littéralement.
Ah oui,
il a tout mis dans ce texte-là. Donc, on écoute ça à l'instant, on se laisse là-dessus. Revenez dans nous en deuxième heure avec les Chroniques du Conseil et JP Mortier.
On aime la même chose. Hein?
Oui.
Les bonnes choses.
Télé-Québec.
Comment peut-on faire couler un petit bateau? En le remplissant de glace sèche, avec un puissant ventilateur ou à l'aide de bulles?
La réponse ce soir, 19h avec Génial, spécial eau à Télé-Québec.
Mal au dos à force d'être toujours assis ou d'avoir trop fêté durant le temps des fêtes? Masso 1452 vous fait une offre incroyable en début de nouvelle année. $49.99 pour une heure de massage. Masso 1452 vous offre même le sixième massage gratuit et $10 de rabais si vous référez quelqu'un. N'attendez plus et appelez dès maintenant au 514-654-1070 ou visitez le www.masso1452.com.
À Télé-Québec.
D'où vient l'intérêt de manger comme nos ancêtres? Marie-Hélène Proulx et le docteur Georges Lévesque démystifient cette diète qui gagne en popularité au Québec, le régime paléolithique.
Une pilule, une petite granule, ce soir 20h à Télé-Québec.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
The Groove is on the Microphone, la chronique du conseil avec Chantal Lheureux et Alain Clavet, journaliste à la Métropole. Nous sommes sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM, les comptes à rendre.
Eh bien, le bonjour, très bon matin. Alors, Chantal Lheureux, comme on m'a déjà identifié, en remplacement de Jennifer Lee Barker, qui est retenue pour cause de maladie. Eh bien, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui, bien sûr, avec l'équipe des comptes à rendre à mes côtés. Vous allez bien?
Ben oui, on a entre autres M. Yvon Dangeau, qui s'est nommé volontaire, OK, pour faire de la poésie aujourd'hui.
Mais oui.
Oui, alors voilà, tout un programme. Et à mes côtés, bien sûr, Alain Clavet, qu'on n'a pas vu depuis un peu.
Journaliste au Journal de la Métropole,
journaliste,
je pense, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Il faut le préciser. Alors, ravi de te retrouver, Alain. Tu nous as manqué, hein? Ça fait plusieurs semaines.
Oui, ça fait quelques semaines, oui, que effectivement.
Tes points exprimés au micro, à notre micro.
J'avais hâte de revenir, alors me voici en force.
Oui, et aujourd'hui, oui, je peux le constater, il semble tout à fait rétabli.
Tout à fait, oui.
Et aujourd'hui, tu es avec nous pour nous présenter des suggestions culturelles très diverses, mais je pense qui vont procurer beaucoup de bien-être. J'entendais parler de chocolat tout à l'heure.
Oui, chocolat, biscuits, on va dans la culture légère.
Merveilleux au mois de janvier. Merveilleux au mois de janvier.
Oui, absolument. Avec les événements internationaux qu'on a connus, oui. Je pense qu'on a besoin d'un peu de légèreté.
Des petites douceurs.
Oui, des petites douceurs. Oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que tu as de bon à nous suggérer en ce jeudi?
Ben oui, commençons. On disait que la culture passe partout, notamment par la gastronomie. Alors, commençons par les biscuits. Alors, il y a une bonne nouvelle. Il y a une institution qui s'appelle la Cure Gourmande. En fait, ça a été créé en 1989 et c'est une institution belge qui font des biscuits, des confiseries, des chocolats absolument hallucinants. Et on est très chanceux à Montréal. C'est la première fois qu'ils ouvrent une boutique en Amérique du Nord. Et c'est nous les privilégiés à Place Montréal Trust. Alors voilà, c'est mon petit clin d'œil gourmand. Parce que quand on parle de culture, finalement, je pense que souvent les gens qui sont des adeptes de culture sont aussi des grands gourmands.
Oui, tout est interrelié.
Gourmands culturels. Et, tous les plaisirs, notamment les plaisirs de la bouche. Voilà.
Oui.
Les épicuriens.
On aime solliciter tous les sens.
Alors, si tu veux que je continue.
Oui.
Toujours dans le plaisir, à l'hôtel Cristal, il y a les soirées Art et Bulles que je vous conseille fortement.
Et c'est pour quand, justement?
Alors, il y en a, en fait, à tous les deuxièmes mercredis du mois. Et le dernier, en fait...
Le dernier était quand même assez particulier, un défilé de lingerie.
En fait, oui, c'est
ça. Pour le plaisir des yeux masculins.
et féminin aussi.
En décembre passé.
Et féminin aussi. Alors, la designer s'appelle Sokolov, et effectivement, elle a beaucoup, beaucoup de talent. Et les événements Art et Bulles, finalement, ça met en valeur des designers et des artistes du Québec.
Ouais.
Parfois, c'est des joailliers, parfois, c'est des peintres. Dans ce cas-ci, effectivement, c'était la lingerie féminine. Donc,
en décembre.
Il n'y a pas eu beaucoup de plaintes.
Je me souviens, c'est le 10 décembre.
C'était le 10 décembre à l'Hôtel Cristal. Oui. Et je me souviens qu'il n'y a pas eu beaucoup de plaintes du côté des participants masculins. Là. Donc, c'était...
Mais est-ce qu'il y en a un prochain événement qui s'en vient?
Il y a, à tous les deuxièmes mercredis du mois. J'avoue que je ne connais pas le programme du prochain.
Okay.
Mais c'est toujours de très bon goût. Souvent des peintres et parfois ça... Donc, c'est une façon de combiner, encore une fois,
la culture... Mais est-ce qu'on l'a manqué? C'est la semaine passée, Rébus?
Peut-être c'était Noël. Là, peut-être qu'il va en avoir un le mois prochain.
Okay,
alors, il ne faut pas manquer ça. Mais ce n'est pas toujours de la lingerie, je vous avertis.
Il y a un bel accueil, hein? Champagne et petites bouchées, c'est bien agréable.
Voilà, alors que, donc la culture avec un verre de bulle, c'est toujours bien agréable. Ceci dit, j'avais parlé...
On reste dans la légèreté aujourd'hui.
Ah, toujours, c'est une chronique légère ce soir. Là. Ce matin plutôt, effectivement. Puis il faut répondre un peu à l'ambiance internationale. Ça a été quand même assez lourd depuis quelques temps.
Oui, comment tu n'étais point là la semaine passée, Alain, pour ne pas faire notre échange?
Je parle sur Charlie. Des événements à Paris. Tout ça, mm-hmm. Je pense que ça nous a tous très, très touchés. Alors, je me suis dit qu'un peu de légèreté ferait du bien. J'avais mentionné...
Et voilà ta participation à l'échange qu'on a eu la semaine passée.
Voilà.
Ça nous amène des douceurs.
Alors, voilà.
Contre
puis
la douleur.
La dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé du festival Séfarade.
Ouais.
Et le festival Séfarade, c'est vraiment une belle découverte. Et j'avais mentionné rapidement le spectacle d'une chanteuse marocaine qui s'appelle Oum. Et là, j'ai eu le plaisir, la chance, après l'émission, d'aller voir le spectacle. Et c'était franchement très agréable. La chaleur du Maroc, dans un style traditionnel. Elle chante dans un dialecte arabe marocain.
Tu nous suggérais d'ailleurs d'y aller.
Ben oui, alors j'ai écouté ma propre suggestion. alors je me suis rendu au Corona. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Comme à mon habitude, j'aime bien les arts visuels. Je sais, c'est toi la grande spécialiste, mais
Non, Alain,
c'est toi.
Il faut préciser tout de suite qu'il est bien humble en cette matinée parce qu'à chaque semaine, il fait un article. Et Jaillard, tu as fait un article récemment sur la galerie 203.
Absolument. La galerie 203, c'est une très belle galerie 203 oui. Notre-Dame-Ouest.
Mm-hmm.
Et c'est une galerie finalement qui allie une belle qualité d'exposition. Bien sûr, mais aussi de l'événementiel.
Pas toujours, mais disons que de temps à autre, il y a une bonne exposition, effectivement.
Oui, effectivement. Ouais. Mais il y a quand même une belle brochette d'artistes.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que j'ai fait un article à ce sujet-là.
Oui.
Et la propriétaire, Corinne Assaraf, se donne la peine non seulement de choisir des artistes intéressants, comme par exemple René Gagnon du Saguenay.
Je l'ai vu, l'expo est vraiment je suis d'accord.
C'est très coloré, c'est très vivant, on sent toute la chaleur du Saguenay, c'est formidable. Et Arcade Latour, qui est dans un autre style.
J'aime beaucoup Arcade Latour.
OK, ouais. Que tu connais.
Ouais.
Et Jessica Gorlicky.
Non.
Jessica Gorlicky. C'est intéressant ce qu'elle fait aussi. Elle fait un peu elle crée des événements. Elle a travaillé beaucoup avec le Cirque du Soleil.
Mm-hmm.
Elle est souvent à Toronto, mais elle vient à l'occasion à Montréal. Et ce qu'il y a de particulier avec la Galerie 203, c'est non seulement on a quand même de très belles expositions, un beau choix d'artistes, mais il y a aussi des événements assez marquants, comme la Saint-Sylvestre, par exemple, cette année.
Il y a une grosse animation, cette galerie-là, un gros ralliement à chaque fois.
Ah, c'était un grand truc, il y avait un DJ, c'était disco, c'était vraiment amusant, puis il y avait des représentants même du studio 54 de New York qui étaient là.
C'est pas vrai.
Alors, c'était tout le truc. Alors,
parce qu'elle aime bien allier fête et art.
C'est
un choix. Hein?
Alors, Corinne Assaraf, c'était vraiment très festif.
Oui.
Et je pense que ça, c'est ma galerie ludique préférée, la galerie 203.
Tu n'es point le seul, d'ailleurs.
Bon, alors...
cette galerie-là.
Mais dans les galeries un petit peu plus bohème, je dirais, j'ai eu la chance, c'est la première fois que j'allais, je sais que toi, tu la connais, le 135 Van Horn, qui est les ateliers d'artistes, là, le 135 Van Horn, que tu connais.
Oui.
Puis moi, il y avait une maison ouverte, là, et puis la possibilité d'aller voir les artistes et les ateliers. Puis j'ai été fort impressionné. Il y a des artistes carrément qui vivent là.
Est-ce que tu parles de la foire?
Le 135 Van Horn, là, c'est
du troisième? C'est la foire du troisième? Non,
la foire du troisième, effectivement. Puis je pense qu'on s'était croisés. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait très new-yorkais, très
convivial.
Ils vivent pratiquement ensemble. Il y a des gens qui vivent là. Et il y a de très, très bons artistes. Alors, quand vous aurez une chance, quand il y a une maison ouverte, là, au 135 Van Horn, allez-y. C'est notre petit New York à nous. Est-ce, je continue comme ça en rafale ou...
Oui, ben écoute, on va regarder, demander au grand Manitou Marc Lavoie, si on est rendu au stade de la musique.
Alors,
je suis grand, effectivement. Manitou, c'est un gros mot. C'est un esprit malin, habituellement, Manitou. Alors, je suis peut-être rusé, mais pas si malin que ça. Alors, je pense, que M. Clavet avait une suggestion de musique.
Oui, absolument.
On va passer en musique, oui.
Alors, Matt Laurent... qui nous convie à un thème, on va se parler d'amour, parce que selon lui, par les temps qui courent, on ne peut rien faire de mieux que de se parler d'amour. Alors, allons-y.
Donc, c'est Marc Laurent.
Matt Laurent, qui est un Québécois qui a beaucoup de talent et qui fonctionne très, très bien maintenant, dans le genre balade, mais très, très bon musicien et très bien entouré.
Et nous sommes à la chronique du Conseil sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Nous avons la chance d'avoir Chantal Lheureux et M. Alain Clavin en studio. Avec nos compères habituels, M. Yvon Jean, Marc-André Lavoie, moi-même et M. Yvon Danjou, qui bientôt nous surprendra.
Viens t'en donc faire un tour. On va se parler d'amour. Par les temps qui courent, on peut pas faire mieux. Pas besoin d'aller loin pour voyager un peu. J'ai ta main dans ma main, juste à fermer les yeux. On pourrait partir à l'autre bout de la planète, les deux pieds dans la mer et que le temps s'arrête. Il me reste juste un peu de fraîcheur à t'échanger. Viens t'en donc faire un tour. On va se parler d'amour. Par les temps qui courent, on peut pas faire mieux. Je veux t'ouvrir la porte, te protéger de la pluie. Essayer toutes les sortes de crèmes glacées aussi. Je veux te faire de l'ombre si le soleil est trop fort. T'es mon ange, t'es ma blonde, t'es mon île au trésor. J'aimerais juste voir nos corps se mélanger. Viens t'en donc faire un tour. On va se parler d'amour. Je veux me voir dans tes yeux comme je te vois dans les miens. Quand on fait des folies, surtout quand on fait rien. Où on peut rester ici, pyjama et pantoufles. On peut rester au lit jusqu'à manquer de souffle. Rester au lit jusqu'à manquer de souffle.
Chanson magnifique, Chantal.
Oui, c'est léger.
Bon choix, donc, M. Clavin.
Optimiste en ce début de jeudi. Eh bien, on poursuit. Hein. Alain, si tu me permets, j'aurais quelques suggestions à
avec
faire.
Plaisir.
Et n'hésite point à me questionner.
Absolument.
Si tu en as
j'aime ça t'interrompre.
Ça m'interrompt. Il y a, évidemment, la rentrée culturelle était jeudi passé. Alors, ça a commencé en grand jeudi passé. Et là, bon, on revient, après une période d'accalmie, on revient avec un bon variant. Il y a, bien sûr, une petite nouvelle, le déménagement de la galerie Nicolas Robert. Je ne sais pas ce qui était situé au Belgo, mais c'est rendu maintenant au 10 rue King dans le Vieux-Montréal. Il y avait la semaine passée l'exposition inaugurale que je n'ai pas pu voir, mais je vous en reparlerai éventuellement. C'est quand même une nouvelle. Il y a aussi une autre nouvelle importante. Il y a le premier marché artisanal à Fresh Pen Gallery. Ça, donc, ça peut intéresser notre auditoire. C'est ce samedi de 13h à 19h, 221 Sainte-Catherine-Est. Et il y aura, bien sûr, une exposition, tout ce qui reste, c'est une exposition variée au repère des 100 talents. Mm-hmm. 30 artistes réunis, donc, ce dimanche. Alors, de quoi vraiment intéresser les passionnés d'art visuel? Et il y a, bien sûr, une exposition de grand intérêt. Il s'agit de l'exposition... Reflet, donc 6. C'est une exposition d'œuvres d'art visuel et médiatique de 9 artistes locaux du Sud-Ouest dont les approches artistiques sont variées et dont la thématique est la nature et la vie dans toutes ses dimensions. Alors, font partie des artistes exposants, des artistes qu'on connaît bien, Françoise Isali, qui propose des œuvres s'inspirant de la cellule vivante à la base de toute espèce, bien sûr, de vie. On retrouvera aussi une autre artiste reconnue, Daniel Bouchard, et ses œuvres empreintes de l'action du geste. Et il y a aussi Michael Merrill, quant à lui, qui transforme ses photos en peinture tridimensionnelle du lieu où il vit. Et 6 autres artistes, donc, sont à découvrir ce jeudi à la Maison de la Culture, ce jeudi à la Maison de la Culture Marie-Hugoué, 6052 Boulevard Monk. Alors, on a aussi à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce une exposition qui pique ma curiosité, c'est-à-dire l'exposition de Caroline Létourneau qui s'intitule « Bestiaire des enfants cruels ». Alors, j'irai et je vous en donnerai des nouvelles. C'est intéressant. Il y a aussi, en fin de semaine, à la galerie Stuart Hall, c'est une galerie aussi très, très bien connue, il y a 5 femmes qui vont exposer, dont Suzanne G. Scott, qui sera du nombre, et qui présente aussi des œuvres en même temps à Beaux-Arts des Amériques jusqu'au 25 janvier. Il s'agit d'une exposition d'œuvres d'art. Suzanne G. Scott, en fait, c'est qu'elle réside au Vermont, et elle expose une série d'œuvres vivifiantes qui revisite un peu, comme l'artiste dont tu parlais, la Galerie 203, la tradition de la peinture de paysage qu'on considère maintenant bien souvent conventionnelle superficielle. Ben, elle a choisi de la revisiter, cette peinture de paysage. Elle a opté pour le ruisseau comme motif, comme thématique, en fait. Elle ne peint plus la forêt ou le ruisseau. Les forêts ou le ruisseau sont simplement suggérés avec des traits vifs, fugitifs, tantôt secs, tantôt liquides, qui s'étirent, coulent, un peu comme le ruisseau. C'est magnifique. Et ce sont des œuvres tout en subtilité de lumière, de couleur, sur une surface planche. Alors, c'est très joyeux, justement. Wow, ça reste dans le ton. Oui. Et elle s'inspire, bien sûr, en particulier des huiles de Tom Thompson lors de ses expéditions en canot en Ontario. Alors, c'est un événement titré Notation à Beaux-Arts des Amériques jusqu'au 25 janvier. J'ai une autre. Est-ce que tu veux que je parle, Alain? Veux-tu me parler de d'autres choses avant que je parle de mon exposition consistante pour terminer?
Tu sais que j'aime t'interrompre, alors oui. Ça me fait plaisir.
Ça commence à être récurrent.
Oui, mais c'est correct, c'est fait avec gentillesse.
C'est fait avec gentillesse, effectivement. Alors, donc, tu as parlé beaucoup d'art visuel. J'irai vers le chant. Oui. J'ai eu l'occasion d'entendre le chœur de gospel J'irai, J-I-R-E-H, qui veut dire en fait en hébreu « Dieu pourvoit ». Alors c'est joli. C'est une belle gang de McGill. Ils sont 80, ils ont une énergie contagieuse. Et quand ces 80-là, étudiants et autres de McGill, sont dans une église, ça déménage.
Oui.
Alors c'est très électrisant, c'est vraiment du gospel comme on aime. Et ça a été très intéressant, donc je vous invite à aller voir ce cœur. Dans un autre ordre d'idées, il y a parfois des institutions qui sont inspirantes aussi. Là, je vous parle d'un restaurant, en fait, c'est le Grizzly qui est à Rosemère, non seulement on peut manger très, très bien, mais ils font à l'occasion des spectacles, créent des événements. Et à Noël, justement, ils ont créé un événement assez, assez ludique là, avec une agence qui s'appelle Five Star PMA. Alors donc il y avait un artiste du cirque dans un cerceau dans le restaurant, je vous le dis. Le Grizzly à Rosemère.
C'est transformé en cirque.
Alors ça s'est transformé en cirque. Alors c'était un vrai cirque.
Ça vaut de se déplacer jusqu'à Rosemère. Mais il faut aller ces attractions.
Oui, absolument, pas besoin de visa, vous allez à Rosemère et...
Ça me rappelle un Pete Smoke Meat, tu sais, qui présentait des shows de blues. Oui, il était reconnu entre autres comme un mécène des blues. C'était pas compliqué, t'arrivais avec ta guite, tu jouais, puis s'il t'aimait, il te bouquait.
Ah, bravo! C'est ça, j'aime ça. C'est vivant, c'est spontané. Il y a d'autres types d'événements. Il y a les Jeudis d'Apollo que tu connais sûrement, Chantal. Alors, les Jeudis d'Apollo, c'est bien. C'est Eric Scott qui fait ça de l'agence Apollo.
Oui.
Et de façon très régulière, il crée de l'événementiel où il met en valeur soit un groupe de la société ou des artistes. Alors, je vous le signale à l'occasion. Et il y a un événement qui a eu lieu il y a une semaine ou deux qui était au Rialto. Juste pour vous mentionner que Rialto, c'est un très beau théâtre à fréquenter. Hein? Le Rialto, c'est sur l'avenue du Parc. Un théâtre qui a été fondé en 1924 et son propriétaire, Ezio Caruzielli, a fait vraiment quelque chose de remarquable. Il y a des spectacles presque tous les soirs. Il faut aller voir ça. Ça peut être des crooners, ça peut être dans le genre Vanelli. Et s'il reste seulement quelques minutes, je veux absolument vous parler de la galerie Sake. La galerie Sake, parce que c'est dans le thème de ce soir. Il y a eu une exposition de Vincent Van Dongen, qui est un chocolatier.
À la galerie Sake,
au 1384 Notre-Dame-Ouest. Puis croyez-le ou non, ce monsieur, non seulement est un bon peintre, mais il est un excellent chocolatier belge.
On reste dans le thème.
Il fait des chocolats. Il fait des chocolats avec des champignons. Un champignon québécois qui s'appelle le changa, que moi, je ne connaissais pas, mais il paraît que ça a toutes les vertus. Et il le pique. Non, mais pas de blague. Il pique ses chocolats sur ses toiles. Puis pendant l'exposition, on avait la possibilité de prendre des petits morceaux de chocolat et de manger.
Alors, Alain, c'est
un drôle de participation à l'œuvre quand même.
Des petits chocolats piqués, c'est du vaudou chocolat.
C'est du vaudou, toi.
On le retrouve bien là. Alain qui avait son grand plaisir de jouir de la vie.
De tous les sens, voilà.
De tous les sens. Alors, je ne sais pas s'il me reste du temps pour parler d'un gros événement d'importance.
Chantal, il y a toujours du temps pour toi aussi.
Oui, il y a un double événement. Alors, comment revenir à ce double événement après autant de plaisir suggéré. Mais il y a un double événement d'importance à ne pas manquer jusqu'au 25 janvier, la Fondation Guido Molinari qui organise des expositions d'artistes en lien avec le légendaire Guido Molinari. Oui. Alors, tout d'abord, il faut se déplacer pour voir l'exposition d'ampleur de Marc Garneau, artiste pilier, peintre, dessinateur, graveur, représenté par la Galerie Graff à Montréal et la CERT à Québec. Alors, on a invité, bien sûr, Marc Garneau pour sa démarche, mais aussi parce que Guido Molinari a été un de ses professeurs.
Ouais.
Et sur place, bon, on peut voir des œuvres accompagnées de carnets de... Il y a des carnets de dessin aussi réalisés entre 82 et 1984, alors qu'il complétait sa scolarité de maîtrise à l'Université Concordia et alors qu'il a fait aussi un voyage dans le sud de la France et de l'Italie qui l'ont beaucoup inspiré.
Avec Garneau, ça va être spécial et spatial.
Ouais, voilà. Alors, ces œuvres sont donc imprégnées des lieux, de ses expériences de voyage et des couleurs des lieux de lieux qu'il a visités, de la lumière de ces endroits-là. Et il faut voir une de ses œuvres monumentales, je vous dirais, qui fait tout un mur et qu'on peut voir autant de près que de loin. Elle est très bien positionnée.
C'est un peu comme le vin, je pense, hein, parce que le vin prend le goût de la terre, de chaque région. C'est un peu la même chose
avec la peinture.
Exactement.
Hein? Le vin prend le goût de la barrique.
Et
on se comprend
donc,
bien.
Donc, il y a une œuvre qu'on peut voir de très loin, qu'on peut voir de très proche. Alors, tout à fait, c'est imprégné, justement, comme tu dis, de texture, de la couleur des lieux. Et il y a aussi, justement, c'est bien qu'il ait disposé une œuvre monumentale, qu'on puisse la voir de différents angles, de différentes distances, parce que ce qui compte beaucoup pour Marc Garneau, c'est l'objet du regard, c'est au centre de sa démarche. Et il invite le public donc à suivre aussi le processus de sa pensée picturale. Et ça, c'est au deuxième étage. Et attenante au premier étage, ben, il y a une exposition ludique, bien sûr. C'est titré « Kozik Molly, les années 70 », un clin d'œil complice. Tu connais Kozik, Alain? Mm-hmm. Et Kozik, ben, c'est un couple d'artistes, Monique Brassard et Yvon Kozik, qui ont reçu en 2012 la prestigieuse bourse de carrière de Jean-Paul Riopel du CALC, le Conseil des arts et lettres du Québec. Alors, ils proposent des œuvres en résonance avec celles de Molinari, entre les fameuses bandes verticales que t'aimes, justement, Alain, les bandes verticales, des quantificateurs. Alors, c'est une exposition jouissive et haute en couleurs, plusieurs grandes œuvres pour grands enfants. qu'on peut voir sur place. C'est des œuvres un peu enfants, grands pour grands enfants, réalisées avec des matériaux kitsch. C'est la marque de Kozik. Mais étonnamment, vous seriez étonné que Molinari s'est beaucoup intéressé à Kozik, à leur démarche, en raison de l'importance que Kozik accordait aux structures, aux couleurs, à la géométrie. Mais ce qui est très important, c'est que vous pourriez allier un spectacle et... parce que ça se termine dimanche, ben profitez donc d'un spectacle qui va avoir lieu ce dimanche à la Fondation Guido Molinari. Samedi à 15h, il y aura une reprise de la compagnie, d'une prestation de la compagnie de danse Louis Bédard dans le cadre de ces deux expositions-là. Donc, ça va faire un beau finissage samedi.
Bon. Et le temps passe. On est ici une minute qui est poétique. Alors, si les gens veulent vous suivre un peu plus, M. Clavet, c'est quoi le site de vos événements et Mme Lheureux?
Ah ben évidemment, moi j'écris régulièrement à La Métropole, qui est un journal qui est sur Internet, et il y a une version papier aussi. Alors il y a des chroniques culturelles, donc je fais tout ce qui est culture, à la fois théâtre, musique, musée. Alors bien sûr, c'est la meilleure façon de me suivre, c'est d'écouter Radio Centre-Ville et de lire La Métropole. Voilà.
Et c'est passionnant de suivre le parcours de Alain Clavet. Moi, je le lis.
Et ton site?
Et moi, j'ai un blog, un magazine In Situ, et vous pouvez retrouver la liste des événements de art visuel chaque semaine sur mon blog. Et je conclurai en vous disant de ne pas manquer la performance, une séance d'hypnose avec Céline B. La Terreur, ce samedi à la galerie Joyce et Aouda. Et il va savoir avoir lieu là, à ce moment-là. Les heures vont être indiquées sur ma page. Sur mon site
Céline
web
B,
et sur ma
terreur.
Page Facebook Insidou. Bon. Samedi, elle sera en performance des séances d'hypnose.
Merci Mme Lheureux, merci M. Clavet.
Merci.
Bon. Alors, une petite nouvelle, okay, on s'essaye à ce moment-là. Bukowski, entre autres, devenant de notre beatnik préféré, le grand donc Yvon d'Anjou qui ose.
Quelle belle conclusion à l'émission.
Sans doute, et c'est notre musique donc de fin.
Un poème est une ville. Un poème est une ville remplie de rues et d'égouts. Rempli de saints, de héros, de mendiants et de fous. Rempli de banalités et de bébines, de bidules. Rempli de pluie et de tonnerre et de périodes de sécheresse. Un poème est une ville en guerre. Un poème est une ville demandant à une horloge pourquoi. Un poème est une ville en feu. Un poème est une ville dans de sales draps. Des boutiques de barbiers remplies d'ivrognes cyniques. Un poème est une ville où Dieu chevauche nu à travers les rues.
Wow.
Ouf! Un époustouflant.
Et si vous voulez suivre Yvon d'Anjou, ben vous suivez l'émission Les Comptes à rendre parce qu'il est un peu partout lui aussi.
Sur la chaîne de Yvon Jean, YouTube.
Ouais, c'est ça. Il fait partie de l'équipe permanente. Ok, on est bien heureux de l'avoir avec nous. Évidemment, comme Chantal, on est heureux d'avoir Chantal Lheureux avec nous. Et Chantal d'avoir Monsieur Jean hein, qui est le big maestro. Hein,
et le journaliste de la Métropole.
Oui.
Qui parle de chocolat vaudou.
Tout souriant.
Monsieur Alain Clavet.
Tout souriant.
Bien tendance.
Passez donc très bonne émission. Mes chers collègues, et bon jeudi, cher auditoire. On vous retrouve jeudi prochain.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Armadon la toune. Et allons faire un tour. By the light of the moon, wait till the day turns blue. Naffa will be coming soon. I'll wait by the light of the moon. Wait for the light in your eyes. Shine through the eastern skies. Simple lies beyond the rise. Wait for the light in your eyes. Someday have the courage to do what I must do. Someday I'll find the strength to say that I love you. Wait for the break of day. Declare what I must say. The sun will rise over Bombay. I'll wait for the break of day. Someday I'll say I love you. Like I meant to do. One day feels like the monsoon. I'll wave by the light of the moon. Someday, see, I love you like I meant to. And one day I'll say I love you. It will be with you, with you, with you, with you.
C'était donc JP Mortier, donc avec nous. Salut, petit frère, ça va bien?
Ça va bien.
Hey, ça fait un bout. Hein? Il me semble que on se connaît depuis un, puis que tu reviens tout le temps. Et dis-moi, je te vois, t'es en forme, OK, t'as l'œil qui est brillant, vif, OK, puis ta musique est aussi forte, OK, à ce moment-là. Est-ce que je crois que tu nous jasais un peu l'autre fois que tu es en réécriture, tu as une affaire qui s'en vient, tu as un concours, puis t'es, en plus, tu as une tournée, mais...
Une affaire qui s'en vient, oui.
Ouais. Est-ce que, si je au moment qu'on se connaissait, il y a 6-7 ans, là, si je t'avais dit tu irais où tu serais aujourd'hui, est-ce que tu y pensais vraiment?
C'est difficile à répondre à ça, je dirais oui et non. Oui, je voulais partir en tournée dans l'Ouest et ailleurs. J'aimerais ça faire une tournée à travers le monde, si possible. Donc, de ce côté-là, oui et non. Parce que oui, je réalise, je book des tournées. Mais non, j'aimerais aller aussi ailleurs. Donc, c'est un petit peu des deux.
Si on regarde, okay, entre autres, le dernier album okay, que tu as fait, puis, qu'on a nous autres ici, qui Song of Love and Despair. Tu sais, tu nous jasais l'autre fois que c'était donc finalement un rassemblement d'émotions, d'expériences, tout ça, des dernières années. On dirait les albums ils reviennent un peu comme ça tout le temps. C'est un petit peu comme un journal personnel, hein?
Ah, absolument, oui. Ben, celui-là, vraiment, ben, bon, c'est plus un journal personnel d'amour, on va dire, de plusieurs expériences avec plusieurs dames que j'ai connues au fil des ans, qui m'ont inspiré à écrire de la musique, et puis...
T'es comme le Bukowski de la guitare.
Oui, mais ça.
Notre beatnik, OK, qui était avec nous en studio, on est avec Yvon Danjou, qui a bien accepté de venir, parce qu'on a un petit quelque chose pour toi. Bon matin à toi. Et dans le fond, toujours aussi présent, mais silencieux, mais brillant de sa présence, Yvon Jean, le chapeau noir. Donc, je sais qu'il est modeste, mais j'aimerais bien qu'il te salue.
Oui, bon matin.
Bon matin.
Alors, si tu regardes, OK, à ce moment-là, la question qui de musique, on avait déjà parlé un petit peu de tout ça, bon, on en reviendra pas, OK, je sais pas, tu sais là-dedans, mais il y a une implication qui est récente, puis on parlait, OK, de la question d'écriture de chansons, mais c'est ton amour... avoué publiquement pour les poètes, parce que tu es musicien des poètes maintenant, depuis un certain
oui,
temps.
Oui, mais c'est grâce à vous autres que c'est devenu qu'un peu comme ça, parce que je connaissais très peu les poètes et écrivains montréalais avant d'avoir rencontré David J. Cox, qui m'a présenté à toi.
Il est rendu à Québec, hein?
Et je sais qu'il est à Québec, oui. Il est à Québec à temps partiel.
C'est un autre fou, d'ailleurs.
Ouais, c'est un autre fou, oui. Ben, donc, à travers toi, j'ai rencontré Yvon Jean, Yvon Danjou, Éric Roger, toutes sortes de monde très, très intéressant, Kimberly Bourgeois, Matt Stern, et puis, donc, plusieurs, disons, une facette que je connaissais pas vraiment de la scène montréalaise, le côté poétique, les poètes, les écrivains, et j'étais, j'en connaissais quelques-uns, mais j'étais pas vraiment là-dedans, trop.
Mais t'es là tout le temps, t'es dans presque tous les seuls votes, ben, quand tu peux, t'es là.
On me demande, donc je viens.
Oui, mais même là, t'es là comme spectateur, tu fais des micros libres, t'es un des fidèles, d'ailleurs, d'Éric Roger, un des fidèles de Chapeau Noir, quand tu peux, quand même.
Ben, quand même, mais je suis pas là tout le temps non plus, donc j'ai quand même des... je m'en vais en tournée très, très bientôt. Donc
tu nous en parles un petit peu de ça?
Ben absolument. Donc, je me book mes tournées, ça va de la quatrième tournée canadienne. Je vais faire un show d'abord ici à Montréal, j'en ai deux. Il y a le concours dont on va parler tantôt. Ensuite, le 15 février, Galerie BAM. D'ailleurs, c'était Éric Roger qui m'avait invité pour ça. Puis qui m'avait, en premier lieu, qui m'a fait connaître la Galerie BAM.
Le BAM, oui. C'est vrai que c'est un endroit spécial. J'y ai pas été encore.
Non, tu
je suis vraiment un camp quand c'est pour
vraiment c'est, une bonne place pour faire de la musique, c'est vraiment du cool, blues, c'est vraiment très cool. Urbain.
Puis tu peux acheter des vieux vinyles que, qui sont un peu off de beaten track, comme on dit.
Oh mon Dieu!
Vintage.
Est-ce que c'est l'ancien... Est-ce que il y avait, une salle de spectacle dans ce coin-là avant qui a fermé il y a à peu près 10 ans?
C'est
avec lequel je parle. Il y en avait une, je pense, c'est ça. Puis
c'est sur Saint-Jacques, à côté du métro Lionel Groulx.
Ouais, je pense que c'est sa même place qui ont été repris.
Ça se peut.
Oh mon Dieu.
Puis ensuite, bon, mois de mars, je m'en vais. Donc, j'ai Winnipeg, Regina, Edmonton, Calgary, Kamloops, deux shows à Vancouver, Victoria, puis quelques autres qui vont se rajouter à ça. Et en revenant, bon, je vais faire l'Ontario. Et ensuite, je vais aller dans les Maritimes, peut-être au mois de juin. Donc,
Il y a des belles places, les Maritimes.
Absolument.
Ouais. Moi, j'ai fait avec Martin, on a fait...
tellement sympathique, les gens là-bas.
Au niveau Brunswick, on est à l'île du Prince-Édouard. C'est une étape en Nouvelle-Écosse. C'est une scène petite, mais quand les gens sont là à 100%.
Ah, absolument. Absolument. Puis l'hospitalité est super. Là-bas. Super.
Mais c'est drôle, tu cours pas les foules, mais... Tu cours plus les groupes.
Madames.
Ouais, les madames. Non, pas vraiment. Mais tu regardes plus vers
écoutez
les.
Écoutez mon album, lui. Là.
Ouais, écoutez l'album. Ouais.
Marilyn.
Tu regardes plus, OK, vers les gens. Tu préfères avoir moins de gens, mais des gens qui t'écoutent, que d'avoir des gens, une grosse gang qui finalement parle. Tu sais,
ouais, mais regarde, je suis quand même. Je connais comment la business est runnée. Je suis pas un jeune 20 ans.
T'es en fléton, un peu en teflon, comme on dit.
C'est ça, un peu, oui. Et puis, je sais que c'est plus difficile de percer dans le marché mainstream. Je pense que j'ai des chansons qui pourraient percer dans le mainstream. Mais bon, c'est un peu difficile. Puis, t'as besoin d'un backing financier assez important pour rentrer là-dedans. Donc, je me dis que on va essayer les petites places, on va essayer les endroits qui sont très friendly, qui sont prêts à m'écouter, puis eux autres, mais ils ont la priorité. Mm. Puis si jamais, bon, le bouche à oreille prend, ça va plus haut, ben
c'est comme ça, hein? On allume un grand incendie que par une petite étincelle.
Et voilà.
Il y a une légende qui te suit. Apparemment, t'aurais fait dans les métros de Tokyo,
le Japon,
t'aurais fait quelque chose dans les métros. Hein?
Ben, je jouais dans le métro.
Puis tu as fait des bonnes places aussi là-bas, j'ai entendu
dire. J'ai jamais fait autant d'argent que là-bas.
C'est incroyable, hein?
Parce que, ben, faut dire que c'était, premièrement, c'était il y a longtemps aussi.
Il y a longtemps, c'est quoi? Il y a 5-6 ans?
Les années 90.
90, oui.
Donc, ça remonte.
Oui, ça remonte.
Ça commence à...
Ah oui, un petit peu avant l'attentat qui a eu lieu dans là-dedans.
Ben oui,
c'est
juste avant.
Ça,
as-tu quelque chose à nous raconter? Tu sais, il arrive des choses. Quand tu es dans un milieu urbain comme ça, ça bouge, ça grouille, c'est quand même plein de monde, c'est bondé. Là. Y a-tu des trucs des fois qui se passent ou des anecdotes?
Ben absolument. À un moment donné, je jouais devant... OK, disons, les stations de métro sont immenses. OK.
Okay.
Et celle que je jouais s'appelait Ikebukuro.
Ikebukuro.
Et puis, il y avait plusieurs sorties. Un petit peu comme Berry, un peu Berry-UQAM, un petit peu.
Genre de labyrinthe.
Oui, un peu, ouais. Puis, tu avais aussi des magasins de certaines places. À un moment donné, je jouais devant, il y avait comme une couple de magasins ou un kiosque. À un moment donné, je suis en train de jouer, je joue une vingtaine de minutes. Puis, un monsieur, très bien habillé, qui vient me dire, « You not play here. You not play here. » Puis là, je dis, « OK, ben qu'est-ce qu'il me veut? » Mais j'avais vu qu'il manquait un petit bout de doigt.
Oh. Ça, c'est le collecteur.
C'est le Yakuza.
C'est le Yakuza.
Ouais, la mafia japonaise, c'est que les...
Ah, oh, le petit doigt. Oh, mon Dieu.
Les kiosques, les magasins dans le métro, ils payent la protection. Puis ils me disent si, ils ont probablement dû appeler ce monsieur-là pour me dire d'aller jouer ailleurs. Donc, je suis allé jouer ailleurs.
Tu joues ailleurs, parce que tu vois qu'il y a des tatous, le monsieur, tu n'y es pas avec ça.
Je me suis obstiné trop.
Il y avait le petit doigt coupé.
Ouais, ah, oui.
Ça, c'est le signe des mafias là-bas.
Non, c'est un signe qu'à un moment donné...
Il a fait une faute.
Il a fait une faute.
Il a fait une faute, puis il a payé pour.
Et puis, il a payé pour.
Oui, parce que tu connais un petit peu comme dans le marchand de Venise avec...
Oui, Thomas Mann.
Avec le juif.
Ouais.
Entre autres avec
Man,
non mais c'est entre autres c'était le juif entre autres le Shylock qui est de même I want my pound of flesh c'est ça c'est littéralement ça
quelle année ça. Puis il l'appelle comment le Yakuza
c'est la mafia japonaise qui est très fait que... tu penses qu'au Québec il y a de la corruption là
so you're not playing
ça fait partie de toutes les bris
mais il t'a-tu bouqué en quelque part Hein? Il t'a-tu bouqué en quelque part? Écoute, ils ont... parce que la mafia et Sinatra, ici, là, à New York, ouais, là, c'était quand même...
Peut-être. C'est vrai que c'était pas Al Capone qui avait commencé la Fédération des musiciens.
Le syndicat, ben, oui.
Le syndicat des musiciens.
Puis le NASCAR aussi, les gars les plus vite en voiture, là, c'était pour la livraison de la Camelot et de la boisson. C'est vrai? C'était vraiment l'association internationale des racers était plus vite que les voitures de police.
C'est logique. Ça a du sens, oui, parce qu'il n'y avait pas le choix de passer les frontières, entre autres, puis l'eau, puis le reste, pendant la prohibition.
Quand tu commandais un whisky à Capone, ça arrivait à l'heure.
Gotta pass my moonshine, boy.
Tu devrais faire des tunes du Capone.
C'est une anecdote qui est intéressante, surtout que la société japonaise est assez xénophobe. Comment tu étais capable de fitter là-dedans et de faire accepter?
Oui, xénophobe sur certains points, mais pas sur d'autres. C'est... Premièrement, c'est vrai que quand tu as en visite, l'hospitalité est là. Quand ils savent que tu restes, que tu es là pour rester, ils sont moins un petit peu accueillants, mais ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu fais aussi. Mm-hmm. Ça dépend de ta profession. Il y a des professions qui sont regardées avec plus d'estime. Si tu es professeur, il y a beaucoup d'estime pour les professeurs là-bas. Donc, si tu as une expertise quelconque, tu vas avoir beaucoup de respect. Mais c'est vrai que en général, les gaijin sont...
Les gaijin, ça, c'est des étrangers?
Les étrangers gaijin. En japonais. Il y en a qui sont plus ou moins tolérants. Mais ça, regarde, il y en a pas mal partout.
As-tu pensé d'écrire une chronique ou des petites nouvelles sur des histoires comme ça? Ça serait vraiment intéressant.
Ben, regarde, mon premier album s'appelle The English House. C'était vraiment ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de chansons de cet album-là qui étaient inspirées de... D'ailleurs, The English House, c'était le nom de l'appartement où j'habitais, à Tokyo.
English House. Ouais. Intéressant comme vie, là, comme aventure.
Qui était un petit peu un genre de moitié appartement, moitié auberge de jeunesse. Mm. Il y en a qui sont plus ou moins bien organisés. Et on était 28 dans la même maison. On était tous... Je partageais une chambre qui était la moitié...
Vraiment comme une fraternité étudiante.
C'était la moitié du studio ici. On était deux par chambre.
C'est comme le Chelsea Hotel ou des lieux un peu mythiques.
C'était un peu ça, oui.
Comment tu vivais là-bas? Tu vivais de ta musique ou de tes prestations?
Je faisais ça, mais je donnais des cours d'anglais, des cours de français aussi. Mais
français, du chinois ou du...
C'est au Japon, premièrement.
Ah oui.
Mais j'avais un cours de français que j'ai eu parce qu'il y avait un moment donné, je regardais pour des jobs. Là, il était tard le soir, puis un Américain avec son surfboard qui venait juste d'arriver, puis il était perdu. Fait que là, j'ai dirigé, écoute, tu t'en vas par là, suis-moi, puis je vais t'amener où est-ce que tu veux aller. À un moment donné, il dit, c'est gentil, je prends ton numéro, si je peux t'aider, je vais t'aider. 3 semaines plus tard, j'ai un téléphone, c'est une madame d'un centre culturel qui dit, on recherche un prof de français.
Wow!
Puis c'est lui qui avait...
Un gars de parole.
Incroyable. Des fois, un petit service, comment
ça... C'est jamais, hein? Ouais. C'est comme... Ouais. C'est toujours rendu, le karma est là, hein?
Tu sais jamais qui tu y aides.
Et ils vont raison, ok, ce genre de choses-là. Le Japon, c'était une époque assez mystérieuse, t'en parles presque pas.
Ben, j'en ai parlé sur le premier album, donc, tu sais, à un moment donné, celui-là, c'est sur l'album de l'amour puis du désespoir. Et le prochain, ça va être une autre affaire. Okay. Ça va être,
as-tu aimé une japonaise, une geisha?
Non, pas assez d'argent pour ça.
Geisha, no gaijin for the geisha. No geisha for the gaijin.
Puis c'est cher, hein?
J'ai eu une blind date japonaise.
T'as eu? Ah oui,
blind. Tu vois la chanson Sayonara Baby sur mon premier album.
Ah, ok, Sayonara Baby.
Ça explique la chanson.
Ah.
Ça s'est pas très bien passé, celle-là.
Oups. Okay. On peut-tu attendre un extrait live de Sayonara Baby?
Ouais, pourrait, mais
on
a un petit quelque chose. Tu veux pas un petit texte que tu veux nous lire?
Oui, mais si tu t'en souviens, si tu
t'as on va faire
un petit riff. Puis ensuite,
es-tu prêt?
Ben oui.
Excellent.
Porn ready.
Tu m'as mis sur le spot.
Ben, on aime ça.
Let's go. Mets sur le beat. Off, on. Avec JP Mortier.
She's there. Oh my God, now she is there. In the station, so bad, now she is there. She is there, leave the band. Oh my God, oh my God, she is there. I can't believe the way that she looks. I can't believe the way that she looks. And there she is, Father Dale's shot in the hooks. I can't believe.
C'est bon.
C'est simple, mais c'est dit. C'est vrai.
Ben, il manquait un accord là-dedans, là, mais on
c'était
dira
bon.
Pas.
C'était bon.
Mais c'est bizarre, hein, dans notre vie, hein, c'est tout un paquet de petits morceaux de même, hein?
Ouais, c'est ça.
Puis, t'imagines-tu, tu disais à un moment donné que t'avais comme des centaines de chansons que t'avais, des choses qui te restent. C'est un peu comme Yvon avec ses poèmes, OK, qui restent un petit peu endormis, mais qui vont sortir éventuellement.
T'sais? Ben, j'ai des gros classeurs pleins de compositions, dont la plupart ne verront jamais le jour, parce qu'il y en a beaucoup que ça vaut pas la peine de sortir ça.
Purple
et,
Rain.
Là-dedans, il y en a... Il y en a plusieurs que peut-être un jour ça va sortir.
Hey, t'as-tu des enfants?
Pas d'enfants.
Ben, il n'y a pas qu'il connaît encore, mais c'est un peu inquiétant.
T'as-tu une perruche?
Une perruche.
Il y a une femme aux États-Unis qui a tout légué. C'est avoir un perroquet.
Un perroquet, bon, il y en a des chauds aussi. Ouais, hein, regarde,
mon Dieu, on est rendu où?
Donne-moi l'argent.
Ça part ma belle-mère, en tout cas. Hein? On est d'accord, JP? On n'aura pas ça à nos belles-mères. Hein?
Écoute, quand tu étais là-bas, au Japon, les petits plats qui étaient vraiment tes préférés, là.
Moi, ce que j'aimais faire, c'est avant mon cours, parce que je donnais mes cours plus le soir, bon, je vais aller à un supermarché. Tu sais, que quand tu vas au IGA, qu'à un moment donné, tu as un stand, tu as un petit produit, tu as un petit sample là, de nourriture, là, c'est petit comme ça, juste pour te.
Juste moi, ils te font goûter des petits goûteurs.
Ouais, tu l'achètes. Ben là-bas, il y en a une cinquantaine dans le magasin. Tu fais un par un, puis tu te donnes une portion plus généreuse, fait que tu as soupé.
Ah, wow! J'aime ça!
Ah, mon Dieu, je fais ça, moi, aussi avec les démos quand je vais chez Costco.
That's
avec
a story!
Hey, ben, je sais pas s'ils le font encore, hein, peut-être, mais dans
le temps, faisais ça. Ben ça!
Fait que, moi,
quelle bonne idée!
Une fois que tu as trouvé ça, ben, OK, tu essaies tes affaires, puis c'est vraiment pas, tu sais pas qu'est-ce que tu manges.
Mais ben, quand même, au moins, tu dors bourré.
Ben, c'est ça.
Hey, c'est bon comme histoire.
Ben écoute, on parlait entre autres parce que le temps file, et il y a un spectacle qui s'en vient le 31.
Oui, bon, le 31 janvier, c'est au National.
Oui.
Et on est une douzaine d'artistes d'ici, local, Montréal.
Dans le cadre de quel concours?
C'est Landmark Events.
Ah, mon Dieu! Ils sont éternels, eux autres. Hein?
Peut-être que tu les as rencontrés.
Oui, je les ai rencontrés à travers
écoute, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis pas un gros fan de concours, je veux dire. C'est plus les concours de popularité, c'est pas tout à fait mon bag, là. Mais je dis, j'avais fait la première élimination. Puis, j'ai passé au deuxième tour. Là, c'était au National. Puis là, j'allais dire non. Je dis, bien, finalement, faire le National, c'est vraiment possible.
Ben ouais, c'est comme dire, faire la place des arts quand même. Là.
C'est ça. Fait que finalement, ça donne que mon drummer et mon bassiste sont disponibles. Parce qu'au premier tour, je l'ai fait solo.
C'est un full band. Ooh.
Ça va être en trio.
En trio, c'est quand même
parce
bon.
Que mon autre guitariste, Stéphane, est parti en Thaïlande pour un petit bout de temps, là. Le petit chanceux.
Une affaire de fille ou une affaire de job?
Avec sa blonde. Quand il fait froid, il dit « on s'en va ».
Yvon qui dit pas aller en Thaïlande, de toute façon.
Ah, j'aimerais ça.
En moto.
Écoute, avec Quasimoto.
Non, mais sérieux, comme en tout...
J'aimerais ça, comme Che Guevara.
Oui, et voilà. Motorcycle Diaries.
Ouais, ça serait bon. J'ai un ami qui exploite un hôtel là-bas sur le bord de la mer. C'est
bon
chambres.
À savoir, ça.
Ouais, ben je te mettrai en contact. Absolument. Avec, quoi. Ouais, oui.
Mm-hmm. C'est une?
C'est un ami.
Ah, OK. Un ami.
Puis il y a 7 chambres en haut.
Ah, OK. C'est plutôt une, toi. Mais c'est un peu un tombeur, notre ami, M. Danjou.
J'ai tombé dans les deux pieds dans les plans.
Ah. Et donc, c'est le mois national, le 31. Les billets, on peut les avoir comment?
Oui, on peut les avoir. Ben, contactez-moi sur Facebook
ou sur
mon site jpmortier.com.
Et au jpmortier@hotmail.com?
jpmortier.com, ça c'est mon site. Pour me contacter, jpmortier@hotmail.com.
Voilà.
Regardez, j'ai une page de musiciens sur Facebook. Vous pouvez laisser un message là. Vous n'êtes pas obligé d'être mon ami si vous ne voulez pas être mon ami.
Mais achetez l'album au moins.
Oui, c'est ça.
Achetez l'album, achetez le billet.
C'est ça. Donc, c'est 14$. Mais comme je vous dis, il y a une douzaine de bandes. Donc, c'est un événement qui dure toute la soirée. Ça commence assez tôt, d'ailleurs. Ça commence vers 16 heures. Moi, j'ai passé entre 18 et 20 heures, probablement. Ben, pas probablement, faut que je passe entre 18 et 20 heures. Et je connais quelques autres des bands qui sont là, puis il y en a qui sont très, très bons. Mm-hmm. Donc, vous pouvez y aller et encourager le talent local.
D'ailleurs, parce qu'on t'a juste entendu une fois, il y a une petite surprise de la part de monsieur D'Anjou. Après ça, est-ce que tu pourrais nous faire une autre chanson, s'il vous plaît?
Ah, mais bien sûr.
Bon. Alors, nous avons JP Mortier sur Radio Centre-Ville 102.3 FM, les comptes à rendre. Yvon D'Anjou, qui co-anime avec brio, en l'absence de moi-même, qui est là, donc, en partie seulement ce soir.
Je vais sortir mon accent Britpop. C'est un texte que j'aime beaucoup de monsieur Mortier, c'est Marilyn on the beach. There goes Marilyn on the beach. Long brown hair and skin of peach. She sees the tugboats out of reach. There's Marilyn on the beach. The sun is gone, the wind is strong. The tide is rising, it won't be long. Let's steers. Painting, steer this song. The sun is gone. The wind is strong. And the waves are crashing. And the sea is threatening. Feel the storm approaching. Will the boat reach the port? And the waves are crashing and the sea is threatening. Feel the storm approaching. There goes Marilyn on the beach, long brown hair and skin of peach. But she's always out of reach. There's Marilyn on the beach.
Yeah! Et c'était un texte de l'album de J.P. Mortier qui est Song of Love and Despairs, JPM-005. Merci J.P. Alors,
Merci beaucoup.
Tu finis en chanson pour nos auditeurs. Avec après la belle voix de Yvon D'Anjou.
J'allais justement jouer cette chanson-là.
Ah, Marilyn, non.
Ah ben vas-y, entre autres. Là, maintenant, OK, la version finale. OK, poste en joué, maintenant JP Mortier.
Mieux livré par l'auteur lui-même.
There goes Marilyn on a beach. Long brown hair and skin of peach. Sees a tugboat out of reach. There's Marilyn on the beach. Is gone, the wind is strong, tide is rising, it won't be long. Let's steer painting, steer the song. Sun is gone, the wind is strong. They are crashing, and the sea is threatening. Feel the storm approaching. Will the boats reach the port? Thank you. echoes Marilyn on the beach.
Woo!
Long brown hair, skin of peach. But she's always out of reach. My Marilyn on the beach.
C'était JP Mortier. Nous sommes donc à Radio Centre-Ville avec donc un petit spécial, juste parce que c'est un bon ami qui a entre autres des comptes à rendre et un bon ami des poètes. Bonne chance pour le concours, JP.
Merci, merci Marc. Merci Yvon. Merci Yvon. Et puis, l'album est disponible sur iTunes, sur cdbaby.com.
Et ton site internet, évidemment.
cdmortier.com.
Comme disait notre bon ami David G. Cox.
All right.
On s'embrasse, mon grand.
Merci beaucoup.
Une bonne soirée.
Peut-on faire couler un petit bateau? En le remplissant de glace sèche, avec un puissant ventilateur ou à l'aide de bulles?
La réponse ce soir, 19h avec Génial, spécial eau à Télé-Québec.
Vous arrivez de partout dans le monde? Vous aimeriez vous installer en toute sécurité? Vous avez un problème d'immigration? La solution 438-878-8827. Visa visiteur, visa étudiant, résidence permanente, demande d'asile, considération humanitaire, demande de pardon, lettre de pardon? Un seul numéro, 438-878-8827. 438-878-8827. Ou pour toute autre question en matière d'immigration, contactez Jean-Nicole Paul, consultant autorisé en immigration canadienne.
À Télé-Québec.
D'où vient l'intérêt de manger comme nos ancêtres? Marie-Hélène Proulx et le docteur Georges Lévesque démystifient cette diète qui gagne en popularité au Québec, le régime paléolithique.
Une pilule d'une petite granule, ce soir 20h à Télé-Québec.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.